Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Comment va ton cœur? On est déjà au numéro 5 de cette série et je ne sais pas combien il y aura de numéros pour l'instant, mais numéro 5. Et le titre de ce numéro 5, alors il est non exhaustif, j'allais dire, je l'ai intitulé « Précieux, aimé, accepté, etc. etc. » Et le sous-titre, c'est « Traiter l'infériorité ». Traiter l'infériorité. Et il est absolument frappant de réaliser, de considérer combien de personnes sont marquées, influencées, bloquées, limitées, disons-le, par le problème de l'infériorité, des complexes d'infériorité, des personnes qui se sentent toujours moins importantes que les autres, pas assez ceci, pas assez comme là, qui n'ont pas ce qu'il faut, qui ne sont pas meilleurs. Les autres sont toujours mieux, on se sent limité, inférieur, et ça peut venir de différentes sources et souvent remonter à très loin. Parfois c'est depuis l'enfance, parfois c'est au fil de son parcours, et l'infériorité est souvent liée à la comparaison. On regarde tout ce qui se passe autour de nous et on se sent tellement plus petit, tellement inférieur, et on se limite, on se bloque. L'infériorité peut être liée aussi à l'accent qui est mis plus sur ce que nous n'avons pas, ce que nous ne sommes pas, que ce que nous avons et ce que nous pourrions être, et le potentiel que nous avons. Et pendant que nous regardons à tout ce que nous n'avons pas, tout ce qui n'existe pas, tout ce que nous ne faisons pas, tout ce que nous ne pouvons pas, eh bien nous passons à côté de ce que nous avons, de ce que nous pouvons faire, du potentiel extraordinaire, formidable, glorieux que Dieu a mis là au plus profond de notre esprit, qui existe et qui depuis le jour de notre naissance et avant même notre naissance était déjà là. Ce trésor précieux que le Père lui-même a insufflé en nous. Mais l'infériorité va nous bloquer, nous limiter, placer des barrières, des frontières. Et à force, ce sentiment d'infériorité, de rejet, nous détruit, nous enferme, nous isole, nous bloque, nous paralyse. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons être libérés de l'infériorité. Nous pouvons être totalement libérés, délivrés, parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes précieux, aimés, acceptés. Notre vie a un sens, nous sommes utiles, équipés, oints de tout ce dont nous avons besoin. Non, nous n'avons plus à subir l'infériorité. Non, nous n'avons plus à nous voir comme moins qu'un autre, moindre, petit, insuffisant. Mais nous pouvons commencer à changer notre regard et à nous voir tel que lui nous voit. Nous pouvons, comme nous venons de le croire, le confesser, le chanter même ensemble, laisser le soleil de justice se lever sur nos vies. Et oui, Dieu va nous justifier. Oui, Dieu va faire la lumière, mais aussi ce soleil va ramener une juste image, va éclairer ce que nous sommes vraiment, celui, celle que vous êtes, celui, celle que Dieu a créé, celui, celle pour qui Dieu a donné sa propre vie, son propre Fils, parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Et nous allons observer ensemble aujourd'hui plusieurs vérités dans la parole de Dieu qui vont nous aider à traiter l'infériorité. Traiter l'infériorité. Une saine approche va passer par le fait de réaliser l'amour de Dieu que nous recevons, qu'il nous a donné, va passer par le fait de s'aimer soi-même, et nous allons le considérer ensemble, et va passer aussi par l'amour du prochain, celui que nous pouvons donner et celui que nous pouvons recevoir. Donc mon premier point, ce sera « Dieu vous aime » ou bien « se savoir aimer ». Donc un premier axe pour traiter l'infériorité, c'est de se savoir aimer. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Confessons-le ensemble. Dieu m'aime. Je suis aimé. Alléluia. Je suis chéri. Vous savez quoi? Je suis l'enfant préféré de Dieu. Amen. Excellente réaction. Chacun d'entre nous, nous sommes son préféré. Il nous a tous favorisés. Il nous aime comme s'il n'y avait que nous sur terre. Il nous aime et s'il n'y avait que nous, il aurait envoyé son Fils, il aurait donné sa vie, il aurait tout accompli juste pour l'un seul d'entre nous. Parce qu'il nous aime, parce qu'il chérit l'Esprit qu'il a mis en nous, parce qu'il nous a créés avec une pensée, un but. Dieu nous aime, nous pouvons nous savoir aimer. Nous sommes voulus, nous sommes chéris, nous sommes acceptés. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 43, verset 4, la chose suivante que le Père adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui, Ésaïe 43, 4, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Oh, alléluia. Fermons les yeux juste un instant et ouvrons nos cœurs, réalisons que nous sommes en communion avec le Père. Et juste là, écoutons, tendons l'oreille. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. C'est ce que nous dit notre Père cet après-midi. C'est ce que te dit ton Père. Tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Je t'aime. Tu es comme la prunelle de mes yeux. Je sais combien de cheveux tu as sur la tête. Je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches. Je sais quand tu t'assieds, je sais tout ce que tu fais. Je te vois et je t'aime. Je t'aime. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais j'ai l'impression que personne ne m'aime, que les gens autour de moi ne font pas attention. Et voire même, je ne suis pas désiré, je ne suis pas voulu. Depuis peut-être l'enfance, depuis la jeunesse, on vous a fait sentir que vous êtes de trop, vous n'avez rien à faire là, on ne vous attendait pas, on ne vous espérait pas, on ne voulait même pas de vous peut-être. Et plus tard dans votre vie, ça se répercute encore. À l'école, vous êtes celui que tout le monde embête ou embêtait. Vous êtes celui qui était toujours le plus faible, le dernier. On se moquait, on faisait des jeux avec vous. Et plus tard dans votre vie sociale, au travail, vous êtes celui qui est toujours à part. On rigole, on se moque, on s'abat sur vous constamment. Mais le Père te dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et vous savez quoi? C'est ça qui vous donne votre vraie valeur. Ce qui vous donne votre vraie valeur, ce n'est pas ce que vous pouvez acquérir. Ce n'est pas ce que vous pouvez faire ou accomplir. Ce n'est même pas ce que les gens peuvent dire ou ne pas dire à votre sujet. Ce qui fait ma valeur, c'est le regard que Dieu pose sur moi. Et Dieu pose son regard sur chacun d'entre nous. Dieu pose son regard sur toi. En particulier, il te connaît, il t'aime. Jérémie 1, verset 5. Remarquez ces paroles que le Père adresse à son serviteur. Et là encore, elles viennent s'adresser à chacun d'entre nous. Jérémie, chapitre 1 et au verset 5. Il est écrit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. » Avant votre naissance, il vous connaissait. Et mon fils, toi qui n'es pas encore né, je te dis, le Père te connaît et il t'a établi. Peut-être que, je disais tout à l'heure, vos parents, ou même ce monde ne voulait pas de vous, mais quelqu'un voulait de vous. Parce qu'il est bien dit, avant même que vous ne soyez tissé dans le sein de votre mère, c'est-à-dire qu'avant que vous n'existiez, il vous connaissait. Et pourquoi est-ce qu'il vous connaissait? Parce qu'il vous a amené à l'existence pour accomplir un but, un projet, un plan particulier. Dieu vous connaît. Il nous connaissait. Avant même que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère, avant même que nous ne naissions, il nous avait établis pour un but, pour une œuvre particulière, pour être ses fils, ses filles, bien-aimés, chéris, favorisés, pour nous épanouir, nous développer, connaître la vie en abondance et répandre cette vie tout autour de nous, comme des témoins de son amour, de sa puissance, de sa capacité. Vous savez, en ce qui me concerne personnellement, je ne sais pas si vous connaissez tous mon témoignage. Bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, il y aurait beaucoup à dire, même si je ne suis pas encore vieux, mais gloire à Dieu pour ça. Et avant ma naissance, ma maman avait des problèmes de santé, de telle sorte que les médecins avaient fait tout leur possible pour convaincre mes parents à l'époque de renoncer à cette grossesse et de renoncer à ma naissance. Et comme mes parents, qui pourtant ne marchaient pas encore avec le Seigneur, mais... Vous savez, quand Dieu a sa main sur vous, il est capable de faire tant de choses. Et il ne pouvait pas se résoudre à une idée pareille. Et au fil du temps, et plus la grossesse avançait, les médecins avaient fini par avertir mes parents en leur disant « C'est à vous de voir les risques que vous prenez. En tout cas, il est absolument certain que soit la mère, soit l'enfant vivra, mais en aucun cas les deux. » Donc maintenant, je résume un peu, mais en gros, vous faites ce que vous voulez. Et nous, on vous a dit ce qu'il en était. Et vous pourrez prendre peut-être du temps pour étudier ces choses-là, mais vous savez, un être vivant, un enfant, entend, réalise, ressent des choses depuis le sein de sa mère. Ce n'est pas le jour où vous naissez que tout d'un coup vous ouvrez au monde extérieur. Et il est évident et vérifier dans bien des témoignages et bien des situations que des choses qui ont pu avoir lieu avant la naissance ont touché et ont paralysé des personnes jusqu'à bien des années plus tard. Et il arrive en aidant des personnes, en partageant avec des personnes, de réaliser que les choses remontent tellement loin et avant même la naissance. Mais Jésus et la parole de Dieu viennent rétablir la vérité en disant « Avant ta naissance, moi je te connaissais et moi je t'avais établi. » Donc peu importe le diagnostic, peu importe ce que les autres disent ou ne disent pas, ou veulent ou ne veulent pas, moi, l'Éternel, je te connais et je t'ai établi. Et si ces vérités-là sont inscrites dans nos cœurs, même quand nous grandissons, même quand nous progressons, elles vont nous accompagner. Et même quand des personnes vont nous dire « Non, mais toi, tu ne dois pas réussir, c'est pas comme ça. Toi, dans ta famille, là, on ne réussit pas, donc tu ne réussis pas, c'est tout. » Toi, tu dis ça. Et moi, je connais quelqu'un qui m'a dit « Avant ta naissance, je te connais et je t'établis. Donc, je fais ce qu'il m'a dit que je ferai. J'accomplis, je réussis, je réalise. » Et quand bien même vous vous levez pour servir Dieu et remplir votre ministère, certains vont se lever en disant « Non, mais tu te prends pour qui? Tu fais quoi ?» Mais ces gens-là ne te connaissent pas. Ils connaissent ce qu'ils voient, ils connaissent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils perçoivent, et surtout ils connaissent l'idée qu'ils se sont fait de toi. Mais il y en a une personne qui te connaît vraiment, c'est celui qui t'a créé. C'est pourquoi il est important, indispensable pour nous, de tourner nos yeux vers lui et de nous attacher à ce que celui qui nous connaît le mieux dit à notre sujet. Parce qu'il nous connaît mieux. Il nous connaît mieux que personne et il nous connaît mieux même que nous-mêmes. Et aujourd'hui, pour finir quand même la petite histoire, évidemment, je suis là. C'est pas un fantôme qui vous parle, en chair et en os. Et ma maman est en vie et elle a eu encore un petit frère et une petite sœur derrière moi. Donc ceci pour dire que, certes, la médecine fait son travail, mais certains diagnostics restent diagnostics d'hommes, mais quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. Et il nous appartient de nous attacher plus à ce que Dieu dit qu'à ce que peuvent dire les hommes. Si mes parents avaient suivi simplement un diagnostic humain, peut-être je ne serais pas là aujourd'hui. Non, pas peut-être, je ne serais pas là. Mais je suis tenté de dire que Dieu met tout en œuvre pour que non seulement nous soyons là, mais plus encore que d'être là, il met tout en œuvre pour que nous soyons là où il nous voit, là où il veut que nous soyons. Et c'est pour ça qu'au fil de notre vie, alors que nous ne comprenons même pas pourquoi et comment, tout d'un coup des opportunités se présentent. Tout d'un coup des personnes viennent, nous disent des choses, nous n'avons rien demandé à personne. J'ai eu, et sans vouloir dévoiler trop de choses, avec beaucoup de respect, mais une enfance assez particulière, un peu mouvementée, une adolescence qui ne l'était pas moins, une image du père très erronée pour différentes raisons et qui aurait pu me conduire à bien des choses. Et si Dieu ne s'était pas acharné, et je prends ce terme volontairement, à m'amener là où il voulait que je sois, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne serais très probablement pas marié, je n'aurais pas d'enfant, et je ne sais pas dans quel état je serais, je ne sais pas si je serais encore de ce monde. Et il y a eu des périodes où j'ai moi-même été tellement marqué par cette infériorité, tellement marqué, je ne me sentais pas, j'avais pas de valeur, je ne servais à rien, j'étais bloqué, je ne voulais de rien, je me fermais aux autres. Ça m'a amené dans une extrême timidité. Et ça m'a poussé au point du haut de mes dizaines d'années de vouloir mettre par moments sérieusement fin à mes jours et d'entreprendre des choses à cette fin. Mais au dernier moment, quelque chose vous saisit et vous revenez à votre raison. Je suis moi-même un témoin vivant et réel de la puissance du fait de se savoir aimé. Se savoir aimé du Père, du Créateur, du Dieu Tout-Puissant. Jean 3,16, l'Écriture nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on pourrait passer tout cet enseignement et bien d'autres encore à nous entretenir de l'amour de Dieu. Et ça nous ferait du bien, ça c'est sûr. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin dans notre exposé, mais en posant ces fondements, vous dire que vous êtes aimé, vous avez de la valeur. Votre valeur n'est pas déterminée, encore une fois, par ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, ce que vous possédez, ce que vous avez, votre valeur est déterminée par le regard du Père sur vous. Deuxième point, s'aimer. Premier point, c'était se savoir aimer. Le deuxième, c'est s'aimer. Exode 20. Une déclaration que nous connaissons. Évidemment, on arrive dans la zone, dans le passage des 10 commandements. Et c'est peut-être là la partie la plus difficile de mon partage cet après-midi et de notre expérience finalement à tous. Penser que Dieu nous aime peut éventuellement être acceptable pour certains d'entre nous. Essayer d'aimer les autres peut être un exercice auquel nous essayons de nous exercer ou de nous donner au maximum. Mais s'aimer est un exercice devant lequel nous fuyons souvent. S'aimer est un exercice devant lequel nous trouvons tant d'excuses. L'humilité, par exemple, la fausse humilité. Que de torts, que d'erreurs à ce sujet. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est accepter ce que Dieu dit à mon sujet. Et si ce que Dieu dit à mon sujet est élevé, l'humilité, c'est d'accepter l'élévation. Mais avec un cœur pur, un cœur positionné. S'aimer. Exode chapitre 20. Oui, j'ai juste pas noté le verset. Il dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut, ni en bas, ni plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis jaloux. Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e, le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi il a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Et ici, on voit toutes ces choses-là et tout le monde s'accorde à dire c'est ce que nous devons faire. Nous devons aimer Dieu, nous devons respecter les 10 commandements. Nous ne devons pas sortir de ces choses-là et oui, Dieu m'aime, donc je dois l'aimer en faisant plein de choses. Mais l'Écriture nous dit aussi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va donner des instructions à ses disciples en disant, aimez-vous les uns les autres. Mais il est dit dans l'Écriture d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est un commandement. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, eh bien tu dois t'aimer toi-même. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi. C'est tout simplement ce que nous dit l'Écriture. Donc nous sommes appelés à nous aimer. Si nous n'avons pas un saint respect pour nous-mêmes, si nous n'acceptons pas celui que nous sommes, nous ne pourrons pas non plus respecter et accepter les autres. Si nous sommes en conflit avec nous-mêmes, en manque d'assurance, en nous imposant des choses, en vivant comme un condamné, ce sont les mêmes choses que nous pourrons donner aux gens qui nous entourent. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons sortir de ces forteresses. Psaume 139, verset 14. Regardez ce que déclare David à son sujet. Et on va reprendre juste le verset 13. Encore une fois, comme pour Jérémie, on retrouve cette même vérité qui s'applique à nous aussi. C'est toi, Éternel, qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et là encore, nous savons reconnaître les œuvres de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure avec beaucoup d'entrain et de joie, « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. » Et c'est vrai, quelle joie, quelle reconnaissance monte en nous quand nous considérons les œuvres de Dieu. Mais pour vous nous expérimenter et exprimer autant de joie, de reconnaissance, de plaisir et de grâce en pensant à nous-mêmes. David disait, « Dieu, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont grandes et admirables. » De la même façon que je me réjouis, que je bénis l'Éternel et que je suis dans l'enthousiasme, peut-on dire, pardon, au sujet des œuvres de Dieu et peut-être des autres personnes, et c'est bon de se réjouir pour les autres, nous devrions, nous pouvons nous réjouir à notre propre sujet. Dire « Waouh, Seigneur, merci, je suis une créature si merveilleuse. » C'est difficile, c'est un exercice. Et je n'y arrivais pas du premier coup. Aujourd'hui, j'y arrive. Mais je n'y arrivais pas du premier coup. Il m'arrivait si souvent de devoir me convaincre et de marcher par la foi en disant « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, même si je fais encore tellement de conneries et que je ne vois rien et que je suis rien, etc. » Mais attends, tu viens de dire quoi là, il y a 2 minutes ? Non, se poser là et dire « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Certainement, j'ai des défauts. Certainement, il y a du travail. Certainement, je ne suis pas parfait. Mais je regarde au-delà de ce que je suis maintenant. Je regarde à ce que tu dis de moi et je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, peut-être pas de ce que je suis pour l'instant, mais de ce que je deviens en toi. Je te loue, non pas de ce que je suis par moi-même, parce que ça, j'ai compris que je ne pouvais plus rien, mais je te loue de ce que je suis lorsque je m'aligne sur ce que tu dis que je suis. Je te loue de ce que je suis par ta puissance agissant en moi. Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Évidemment, nous n'allons pas tomber dans le narcissisme. Vous connaissez cette histoire de Narcisse qui aimait tellement son image qu'il se regardait tranquillement dans l'eau et qui finit par se noyer devant la splendeur de son image. Non, ce que nous contemplons, ce que nous louons, ce que nous élevons, c'est l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Et pendant que je dis « Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », en fait, je lui dis « Dieu, je te loue des merveilles de l'œuvre que tu accomplis en moi parce que je t'appartiens à toi. Et ce que je suis aujourd'hui, je ne le suis plus par moi-même, je le suis par ta grâce, par ta puissance, par ton esprit. Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Trop de gens disent « Moi, je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis tellement mauvais, je suis tellement inutile, ah, oh, je suis trop bête, je suis trop ci, je suis trop ça. » Et vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai sans Dieu, mais avec Jésus, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas moi, ça, c'est pas toi. Celui qui est bête, moche, nul, inutile, peut-être qu'il existe quelque part, mais c'est pas toi. Toi, tu es celui que Dieu dit que tu es. Et il dit que tu es équipé, talentueux, intelligent, créatif. Tu es aimé de Dieu. Semblable au Fils bien-aimé. Si nous étions tellement insignifiants, si nous n'étions tellement rien, cela reviendrait à dire que finalement, Dieu porte son amour à tort. Ça reviendrait à dire que Jésus est venu pour rien, que ça ne servait à rien, puisque de toute façon on est des moins que rien, et qu'il est venu, mais on n'y comprend rien, c'est n'importe quoi. Moi je ne comprends rien à pourquoi Jésus est venu. Mais une chose que je sais, c'est que j'en ai tellement besoin. Et une chose que je sais, c'est que s'il est venu, c'est justement pour que je ne reste pas tel que j'étais et tel que j'aurais été s'il n'était pas venu. Oui, s'il n'était pas venu, je serais misérable, je serais pauvre, je ne pourrais rien accomplir, je serais dans le péché, je serais sale. Mais parce qu'il est venu, je suis devenu une créature merveilleuse. Il m'aime. Et j'allais dire que si Dieu nous aime, qui sommes-nous pour ne pas nous aimer? Vous savez, ne pas m'aimer, ça voudrait dire que je sais mieux discerner les choses que Dieu lui-même. Parce que Dieu a décidé de m'aimer, ça veut dire que je suis aimable. Et Dieu a beaucoup de foi. Ça, Dieu a vraiment beaucoup de foi. Et c'est excellent. Merci Seigneur pour ça. Il a foi. Il a foi en nous. Parce que lorsqu'il nous regarde, il ne regarde pas celui que nous sommes. Il regarde celui que nous pouvons devenir à cause de l'œuvre de son Fils. Il regarde à la semence qu'il a placée en nous. Et là, il nous voit et il nous dit, je t'aime. J'aime cet homme-là. J'aime cette femme-là. J'aime ce qu'il y a dans cette vie-là. Alors c'est vrai, quelqu'un pourra me dire, mais Paul a dit aux Romains, chapitre 12, verset 3, que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. On est d'accord, c'est vrai. Mais ne pas avoir une trop haute opinion de soi ne veut pas dire pour autant qu'il faut en avoir une trop basse non plus. Nous devons avoir sur nous-mêmes la juste opinion, l'opinion de Dieu. Pas une trop haute en disant, mais moi je vaux mieux que les autres, parce que le risque évidemment c'est de se dire, ah je m'aime, je suis le meilleur, je suis le plus fort, et puis les autres... Vous valez rien, vous êtes, il n'y a que moi, je suis le meilleur, je suis mieux. Non. Je m'aime parce que Dieu m'aime. Je m'aime parce que j'aime l'œuvre de Dieu en moi. Je m'aime parce que Dieu m'a dit de m'aimer. Et vous savez ce qui est merveilleux? C'est que plus je m'aime moi-même, plus je peux aimer les autres. Et plus Dieu peut aimer à travers moi. Parce que si je ne m'aime pas, je mets moi-même des frontières, des limites. Si je ne m'aime pas, je mets un blocage à l'amour de Dieu qui voudrait pouvoir se répandre, couler à travers ma vie. S'aimer soi-même est une de ses clés pour traiter l'infériorité. L'Écriture déclare que vous êtes capable. Marc 9, verset 23, il est écrit « Tout est possible à celui qui croit ». Philippiens 4, 13, il est dit « Je puis tout ». Par celui qui me fortifie. Alors peut-être qu'on vous a dit des choses. Et comme ça a été le cas pour moi-même, vous savez, il y a eu un gros... Vous me connaissez aujourd'hui, mais vous savez, il y a une émission de télé, j'oublie le nom, qui passait un moment, je ne sais pas si ça existe encore, et c'était les Américains qui faisaient ça. Et en fait, ils allaient dans des familles ou dans des maisons qui étaient en difficulté, et ils venaient là et ils rénovaient complètement la maison. Et en fait, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que on parlait de renouvellement ou rénovation de maison, mais en fait, il était très rare qu'ils rénovent. Ils arrivaient, ils défonçaient tout et ils reconstruisaient. Mais quelque chose d'extraordinaire, franchement de magnifique. C'était quasiment des palaces. Les gens étaient toujours ébahis devant ce qui se passait et ils ont vraiment fait énormément de bien et ça, c'est bon. Mais c'est juste une œuvre d'homme et un truc de la télé. Mais si vous m'aviez connu il y a quelques années, quelques dizaines d'années, et vous me voyez aujourd'hui, mais entre ce que j'étais et ce que je suis maintenant, il s'est passé de gros chamboulements, de gros chantiers. Et merci Seigneur, c'est pas encore terminé, mais il y a eu tellement de faits. Et vous savez, peut-être qu'on vous a dit, comme on m'avait dit, que depuis même l'enfance et la jeunesse, que de toute façon toi t'es un incapable, tu t'accompliras rien, t'es nul, tu sers à rien, tu comprends rien. Tu feras rien, et comme je disais tout à l'heure même, parfois les gens disent, dans cette famille-là, personne ne réussit, donc n'imagine pas que toi, tu vas réussir. On dit, pour qui tu te prends d'aller vouloir faire des études? Chez nous, personne ne fait d'études, on est tous miséreux, on traîne dans la boue, et puis c'est comme ça, et ça ne changera pas, et ça reste comme ça, et toutes ces paroles-là, mais vous savez, peu importe ce qu'on a dit sur vous, et ce qu'on vous a dit, ce qui compte aujourd'hui, c'est de lever nos yeux, et de considérer ce que Dieu dit à notre sujet. Et ce que Dieu dit, c'est ce que nous venons de dire entre autres, que tout est possible à celui qui croit. Ce qu'il nous dit, c'est que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes équipés et capables d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Et j'irai encore plus loin en disant qu'il n'y a plus de notion d'échec. Souvent, on ne s'aime pas parce qu'on se dit « moi, je ne réussis pas, j'échoue, je mène rien à bout ». Et effectivement, du coup, au fil du temps et des années, on entreprend plein de choses, mais on finit rien et on n'accomplit rien. Mais si j'apprends à m'aimer et à avoir envers moi-même l'amour que Dieu a pour moi, je vais me voir en termes de capacité, de possibilité. Je vais me voir comme quelqu'un qui accomplit, qui réussit, qui entreprend et qui va au bout. Vous savez, moi, il y a des personnes que j'aime. Et alors, je les applaudis, je les encourage. Et j'aime aller voir réussir. Je me dis, moi, j'aime cette personne parce qu'il prend des décisions, il va au bout et il accomplit. Mais pourquoi est-ce que je ne m'aime pas de cette façon-là? Et d'un autre côté aussi, sans du tout nous culpabiliser ou nous mettre un fardeau, mais vous savez, quand nous abandonnons en chemin, c'est parce que nous ne nous aimons pas suffisamment pour aller jusqu'au bout. Si je m'aime, je ne me permets pas de m'arrêter en chemin. Si je m'aime, je ne me permets pas d'être négligent. Si je m'aime, je vais au bout de ce que Dieu m'a dit. Si je m'aime, je me fais violence parfois. Donc je ne suis pas en train de prêcher un espèce d'amour à dire je me tolère tout, je me laisse aller tranquillement. Non, si je m'aime, je me corrige. Si je m'aime, je m'instruis. Si je m'aime, je me force quelquefois. Si je m'aime, je m'aligne sur ce que Dieu dit de moi parce qu'il m'aime et ce qu'il dit est vrai. S'aimer. Alors oui, ça veut dire d'avoir un regard bienveillant sur soi-même, ça veut dire de s'accepter, de s'accueillir. Mais s'aimer, ça veut dire aussi d'aller et de s'exposer à la transformation que Christ m'offre pour devenir celui qu'il veut et que je peux être en lui. Et cette personne-là que je peux devenir, je vais l'aimer sans faire d'effort, parce qu'elle est conforme à l'image de Christ. Mais ça suppose d'abord de faire un effort pour m'aimer là où je suis maintenant. Vous savez, avant même, l'Écriture dit, alors que nous étions encore pécheurs, il nous aimait déjà et il est venu nous chercher là-bas. Il n'a pas attendu qu'on se soit repenti et qu'on soit pur devant lui pour nous aimer. Il nous a aimés pendant qu'on était sales et puants. Et c'est parce qu'il nous a aimés là-bas que nous sommes arrivés là où nous sommes. Et c'est parce qu'il nous aime que nous arriverons là où il veut nous emmener. Vous pouvez changer le cours des choses. Psaume 84, verset 7. Regardez cette écriture. Psaume 84, verset 7. Encore un élément pour nous encourager, nous aider à nous aimer. On va prendre le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi, Éternel, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 7, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs, de la désolation, de sécheresse. Ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant qu'ils marchent, et ils se présentent devant Dieu. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière et prête l'oreille, Dieu de Jacob. Vous voyez cette écriture-là, vous avez la capacité, le pouvoir, j'allais dire la responsabilité, de changer le cours des choses. Vous êtes important. Dieu nous a équipés, Dieu nous a oints de capacité, de puissance, d'autorité. Il est dit que ceux qui placent en lui leur appui trouvent des chemins tracés, donc il nous donne une direction que nous allons suivre. Et alors que nous traversons des vallées de sécheresse, de désolation, de tristesse et autres, nous les transformons. Il n'est pas dit « Dieu les transforme » en un lieu plein de sources, il est dit « Il » le transforme en un lieu plein de sources. Autrement dit, vous et moi, nous sommes dotés de la capacité divine, surnaturelle, de changer les endroits que nous traversons. Alors que c'est sec, désolé, alors qu'il n'y a plus rien, alors que c'est terrible, alors que ça ne nous convient pas, parce que ce n'est pas ce que ça devrait être, l'Écriture dit que lorsque nous passons par là, nous transformons cet endroit en un lieu plein de sources. Alors cessez de dire, moi, j'arrive que à produire du désordre autour de moi. Moi, partout où je suis, il y a des problèmes. Et peut-être vous l'avez dit vous-même, peut-être quelqu'un l'a dit sur vous. Oui, mais toi, de toute façon, là où tu passes, regarde. Là, il suffit que tu sois dans une affaire et puis c'est fini, il n'y a plus rien, ça ne va pas. Non, Dieu dit que ceux qui placent en moi leur appui, je mets dans leur cœur des chemins tout tracés. Et même si ces chemins l'emmène dans un lieu désolé, même si ces chemins l'emmènent dans la sécheresse, même si ces chemins l'emmènent là où il n'y a rien, là où c'est sale, mort, où il le transforme en un lieu plein de sources. Vous êtes une source de transformation bénéfique. Si je commence à écouter ce que Dieu dit de moi, si je commence à m'aimer comme Dieu m'aime et parce que Dieu m'aime, alors je réalise que non, si je suis quelque part, ça doit fonctionner. Et j'arrive et je dis, moi, parce que je suis là, ça va marcher. Évidemment pas parce que c'est moi, mais à cause de Christ en moi. Et donc, si je suis dans l'affaire, ça va marcher. Vous savez, j'ai souffert au collège et même à l'école. À chaque fois qu'il y avait une histoire de faire des équipes, j'étais toujours dans les derniers qu'on ne choisit pas. Et aujourd'hui, ça va et j'en rigole parce que... Et tu es là, et alors là, ton sentiment d'infériorité, il grandit encore, et de toute façon, personne ne veut de moi, etc. Et quand on finit par appeler votre nom, parce que vous êtes le dernier qui traîne là, et de toute façon, on n'a pas le choix, vous n'êtes pas fier d'y aller. Et pendant des années, ça m'a poursuivi, ça m'a fait mal. Et aujourd'hui, merci Seigneur, ça ne fait plus mal. Mais je ne savais pas encore qui j'étais. Et je ne m'aimais pas encore. Et vous savez, si aujourd'hui on me faisait le même coup, ça ne viendrait pas me rajouter une barrière de plus, et ça ne viendrait pas me dire que je suis inférieur. Mais si on me faisait le même coup, je dirais, « Eh les gars, vous ne savez pas à côté de quoi vous êtes passés. » Excellent. Et ça, vous le faites quand vous commencez à vous aimer, parce que Dieu vous aime. Quand je fais cela, je m'aime d'une part, et j'aime ce que Dieu a placé en moi. J'honore ce que Dieu a placé en moi. Je mets en avant ce que Dieu m'a donné. Si du reste en disant, bon, de toute façon, ça ne fait rien, je sais que je ne suis pas doué, bon, hein, chacun a ses domaines. Non, je suis doué, je suis capable, je suis intéressant, je suis quelqu'un de positif, de bon. Et même si toutes sortes de situations contraires peuvent se présenter à vous, et même si ce que vous essayez de faire, finalement, vous voulez bien faire, vous voulez aider les gens, et puis vous êtes en train de faire n'importe quoi, ou de passer à côté du but, ça arrive, hein, et vous êtes là, mais vous savez quoi? Dieu dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon ses desseins. L'Écriture dit qu'il change le mal en bien. Et ce que Dieu va regarder, c'est ton cœur. Et si tu as mis ton cœur et que tu voulais servir, aider, même si quelqu'un va dire « Ouais, mais t'es inutile, tu ne sais rien », tu dis « Non, je suis utile, je suis aimé, je suis apprécié. Je suis très certainement original, mais je suis utile, je suis aimé et je m'aime. Aimez-vous, aimez ce que vous faites. » Tu sais, quand vous faites quelque chose, vous avez mis tout votre cœur, certes, il faut être réaliste, hein, parfois on se dit « Bon, ben là, j'ai mis tout mon cœur, mais le résultat est bon. » Mais non, restez pas là en disant, de toute façon, je suis bon à rien et puis j'y arriverai jamais. Dites, mais c'est pas grave, la prochaine fois, je ferai mieux. Aimez ce que vous faites, aimez-vous. Aimez Dieu en vous. Aimez les dons, les capacités que Dieu a mises en vous. Et vous allez les faire mettre en valeur, elles vont s'exprimer de plus en plus. Donc comment traiter l'infériorité? 1. Se savoir aimer. Dieu vous aime, c'est ce qui vous donne de la valeur. 2. S'aimer soi-même. S'aimer soi-même, en réalisant que nous avons ce qu'il faut, nous sommes capables, nous pouvons changer les choses. Et comment le faire? Comment fortifier notre confiance? Ça passe par le fait d'ajuster notre regard, en nous alignant sur ce que Dieu dit et voit. Et je voudrais vous donner juste quelques pistes et vous encourager à regarder davantage à ce qui va qu'à ce qui ne va pas. Regardez plus à ce qui va qu'à ce qui ne va pas. Regardez plus à ce que vous avez qu'à ce que vous n'avez pas. Et vous savez, j'ai été interpellé dernièrement en échangeant avec quelqu'un qui me disait que maintenant, même dans certains domaines du management et de l'accompagnement personnel, même hors Bible et hors Église, on commence à réfléchir sur des techniques de progrès par la considération de ce qu'on a déjà. On commence à se dire, au lieu de dire, voilà, il y a tel problème qui ne va pas et puis on va traiter le problème, on s'est rendu compte que ça abattait beaucoup les gens et que même si on mettait de l'énergie pour résoudre le problème, on était focalisé sur le problème et la solution était souvent difficile à atteindre. Et aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas éclairées par le soleil de justice, des personnes qui ne sont pas exposées au Dieu de gloire tout-puissant, commencent à se dire, mais si on regardait plutôt à ce qu'on a, et en utilisant ce que nous avons, nous allons très certainement dépasser les problèmes qui pourraient se présenter. Et Dieu lui-même nous avait déjà donné tout, il nous avait déjà instruit à travers sa parole en nous disant, ne regardez pas aux choses visibles, par exemple, mais regardez aux invisibles, parce qu'elles sont éternelles. En nous incitant à la foi, à travers l'exemple d'Abraham, à travers l'exemple de tous ces patriarches, et à travers même l'exemple de Jésus sur la terre, qui regardait au-delà des choses visibles, qui ne s'arrêtait pas sur ce qui n'allait pas, mais qui cherchait en nous et dans les gens quelque chose qui allait bien et à partir duquel il pouvait les attirer à devenir meilleurs et à progresser. Et nous devrions, et nous sommes de ces gens-là, je le confesse, qui regardent à ce qui va, qui regardent à ce qu'il y a de bien chez l'autre et chez lui-même, et qui met en avant et qui essaie de développer ce qui va bien. Et alors que nous nous focalisons et que nous cherchons à développer ce qui va bien, eh bien nous investissons de l'énergie dans cette direction-là et nous favorisons ces choses-là à s'épanouir, à se manifester dans notre vie. Et par là même, ce qui allait moins bien va être éclairé, va être marqué de la grâce, de la puissance de Dieu qui coule à travers ce qui va bien. Et l'Écriture dit que vous avez tout ce qu'il faut. 2 Pierre 1, verset 3, si on peut l'avoir. 2 Pierre 1, verset 3. Il est dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Autrement dit, sa puissance, là j'ai même pas besoin, m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, j'ai tout ce qui contribue à la vie. Oui, non, peut-être. Ok. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, arrête de te dire à toi-même, ouais, mais t'es pas assez ci, t'as pas assez de ça, t'as trop de ci, t'as pas assez de ci, t'as pas là, t'as pas ça. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Et quand je me trouve dans une situation où j'ai l'impression d'être bloqué ou limité, je regarde, je dis, non, sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie, donc j'ai ce qu'il faut, donc j'y vais. Je relève les défis. Évidemment, les défis qui sont dans ces chemins-là qu'il a tracés dans mon cœur. Pas n'importe lesquels. Et ça va nous amener à quelque chose qu'on va juste regarder dans quelques instants. Et une autre manière de nous fortifier, d'ajuster notre regard, donc regardez plus à ce qui va qu'à ce qui ne va pas, à ce que vous avez, plus qu'à ce que vous n'avez pas. Voyez-vous tel que Dieu vous voit. Croyez et confessez, je suis ce qu'il dit que je suis. Faites-en votre image, faites-en votre ce qui vous appartient, vous êtes ce que Dieu dit à votre sujet. Alors quand une pensée négative se présente, vous lui opposez une pensée positive, vous lui opposez une parole de Dieu. Quelque chose vient pour dire « je suis pas ci, je suis pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça », vous amenez une parole de Dieu à la place. Défendez-vous. Si je m'aime, je me défends. Je veille sur mon cœur. Et c'est ce que nous faisons à travers tous ces enseignements aussi. Et je me défends quand quelque chose vient contre moi. Non, j'amène la vérité de la parole de Dieu, ce qu'il dit à mon sujet. Ne vous laissez pas arrêter par une apparente difficulté ou par du manque. L'Écriture dit qu'il n'y a aucune épreuve qui vous soit survenue, qui soit au-dessus de vos forces. Donc quand une épreuve vient, parce que je m'aime, et parce que je reconnais l'œuvre que Dieu accomplit en moi, je reste ferme, je ne pars pas en courant, je ne fuis pas l'épreuve. Je ne me déclare pas vaincu, mais je sais, je crois et je confesse qu'aucune épreuve qui ne m'est survenue n'est au-dessus de mes forces. Donc j'ai ce qu'il faut, j'ai les forces nécessaires, j'ai les capacités, je fais face et je surmonte. Fortifiez votre confiance. Philippiens 4, verset 13, nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et je vous encourage à le confesser pour vous-même. « Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux tout par celui qui me fortifie. » Tout ce que j'ai besoin de faire dans ma vie, je le peux par celui qui me fortifie. Donc remarquez toujours, hein, et je tiens à équilibrer, par celui qui me fortifie. Pas d'épreuve au-dessus de mes forces, pas parce que je suis fort, mais parce qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir, il a préparé. Hein? Je parle de m'aimer, de nous aimer, mais de nous aimer en nous appuyant sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire par lui, en lui, avec lui, à travers lui, pas ce que nous pourrions faire par nous-mêmes, parce que là, si vous n'avez pas encore compris, vous finirez par comprendre et ça fera mal, que vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, si je m'aime, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Si je m'aime, je reconnais ce que je suis tout seul, et là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et surtout, je m'attache à reconnaître ce que je suis en lui, par lui, avec lui. Et c'est ce qui me permet de m'aimer et de surmonter tout ce qui se présente dans ma vie et d'avancer. Donc, fortifiez votre confiance, confiance en vous-même d'une part, pardon, et surtout, faisons confiance à Dieu. Pardon. L'Écriture nous dit, Éphésiens 3, 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire. » Donc nous faisons confiance, nous savons qu'il peut faire, par la puissance qui agit en nous, beaucoup plus que ce que nous demandons ou pensons. Donc nous avons en nous quelque chose de bien plus grand que ce que nous sommes juste par nous-mêmes. Donc je peux m'aimer. Et je m'aime, pas juste tel que je suis et parce que je suis ce que je suis, mais je m'aime dans le regard et dans la perspective de ce que je suis en lui. Je m'aime dans la perspective de ce qu'il est en moi et de ce qu'il accomplit en moi et à travers moi. Donc, d'une part, se savoir aimer de Dieu, s'aimer soi-même en rétablissant une saine image, en se réconciliant, en s'acceptant tel que nous sommes. Et puis, ça va nous conduire aussi à s'ouvrir aux autres pour aimer et être aimé. Et dans cette question de l'infériorité, Il vient là une dimension qui est absolument nécessaire et qui a besoin d'être rétablie comme il se doit. Parce que l'une des difficultés quand nous avons, quand quelqu'un a cette infériorité qui agit dans sa vie, ou ces complexes-là, ces choses qui le bloquent, c'est que sous certains aspects, il va s'isoler, se fermer, parce qu'il se sent moindre et donc il se coupe du reste. Mais en même temps, il est tellement en recherche aussi d'être aimé, d'être apprécié, qu'il peut être amené à faire plein de choses et à vouloir produire, faire, démontrer, pour essayer de grappiller, d'obtenir un peu d'amour des autres. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, il devient encore plus détestable. Donc, première chose, se savoir aimer de Dieu. Deuxième, s'aimer soi-même. Et ensuite aussi, aimer et se laisser aimer. Et c'est vraiment important, de réaliser que nous avons besoin. Et je l'avais mentionné en passant la dernière fois. Parce que si nous nous isolons et que nous fermons les portes, nous nous privons de choses extraordinaires, excellentes, qui peuvent être source de guérison aussi, de bénédiction, de croissance que Dieu a placée dans quelqu'un d'autre. Et chacun a besoin de se sentir utile, accueilli. Sinon, on va avoir de la frustration, on va commencer à s'aigrir et même développer des maladies. Et les gens deviennent bizarres parce qu'ils ne se sentent pas acceptés, accueillis, aimés. Mais vous savez quoi? C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Une chose simple pour être aimé, si je peux dire ça comme ça, c'est d'être soi-même. Soyez simple, spontané, avenant. Si maintenant vous vous aimez vous-même, vous allez vous autoriser à être vous-même. Pourquoi est-ce que nous essayons d'être quelqu'un d'autre ou de faire plein de choses? Parce que finalement nous ne nous aimons pas nous-mêmes, donc nous essayons d'être quelqu'un d'autre. Mais si je m'aime moi-même, je peux être moi-même, accepter. Et alors les gens vont se sentir à l'aise dans ma présence. Vous savez, parfois on se dit, mais les gens ne m'aiment pas, les gens n'aiment pas être avec moi, mais nous avons aussi notre responsabilité de faire en sorte, si j'ose dire, d'être aimable et d'aimer les autres. Nous allons produire et récolter ce que nous-mêmes nous envoyons comme message. Donc soyez vous-même. Et si vous opérez dans l'amour de Christ, vous êtes simplement vous-même, c'est simple. Et vous laissez aussi l'amour de Christ passer à travers vous, tout simplement. Un autre point est tellement important, cessez de vous comparer. Cessez de vous comparer. 1 Corinthiens 12. Et je ne vais pas faire la lecture parce que le temps avance, mais je vous invite à le lire. 1 Corinthiens 12, au verset 12 à 27, il nous est parlé de la réalité du corps. Il nous est dit que nous qui sommes fils et filles de Dieu, eh bien nous sommes les uns envers les autres un peu comme dans un corps, avec différents membres. Et chaque membre a sa place, son utilité, sa nécessité. Et si l'un disait « Mais pourquoi je ne suis pas tel autre ?» et que l'autre disait « Mais pourquoi je ne suis pas tel autre ?» eh bien il y aurait des dysfonctionnements. Si nous étions tous pareils, tous en train de faire la même chose, tous comparables, eh bien, il manquerait tant de richesse, tant de puissance, tant de grâce dans l'Église et dans le monde, tout simplement. Vous pourrez lire ça chez vous, 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Et Dieu nous a fait différents. Et c'est un don, un cadeau que nous avons, que d'être unique. Donc, ne nous comparons pas aux autres. Ne vivons pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre, en essayant d'être comme quelqu'un, mais plutôt acceptons-nous, trouvons notre place et soyez vous-même, encore une fois. Et puis, si vous voulez être aimé, parce que c'est souvent une quête, une difficulté, commencez par aimer. Commencez par aimer. Jean 13, verset 34, regardez comment ce que nous dit l'Écriture, Jean 13, 34. Jésus nous dit, « Mes enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. » Pardon, ouais. Vous me chercherez, pardon, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant, et surtout verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et souvent, on va attendre que les autres nous aiment, que les autres nous acceptent, que les autres nous intègrent, que les autres nous passent un coup de fil, que les autres nous envoient un email, que les autres nous fassent un cadeau, que les autres fassent. Mais vous savez quoi? Faites-le vous-même. Aimez. Et ça peut paraître étrange, voire contradictoire, en disant, mais moi je souffre d'infériorité et tu me dis que je dois aimer les autres. Oui, justement, elle est là, ta clé. Si tu restes dans ton coin, dans ton trou, en disant, oh, ouais, je ne suis pas accepté, je ne suis pas aimé, on ne fait pas. Mais toi, que fais-tu? Commence à faire. Aime, laisse l'amour de Dieu s'exprimer à travers toi. Et tu verras tout d'un coup, il y a, Il y a un courant, une dynamique d'amour qui se met en place. Tu dis, ouais, mais les autres ne veulent jamais m'écouter quand il y a une discussion, je suis toujours à côté, c'est jamais intéressant, jamais rien à dire. Ou quand il y a quelque chose qui se fait, on ne me demande jamais si je veux être là, etc. Mais est-ce que toi, tu proposes d'être là? Et peut-être quand tu vois deux, trois personnes parler, est-ce que tu viens simplement et tu t'intègres et tu fais partie? Et tout ça, ça paraît tellement simple, mais c'est des choses que moi-même, j'ai dû apprendre à un moment. Parce qu'on se met de notre côté, puis on a l'impression que c'est les autres, mais en fait, les autres ne nous excluaient pas. Et quand nous venons, nous arrivons, nous sommes largement accueillis, intégrés, comme tout le reste. Donc, il suffit de faire un pas, d'amener quelque chose, d'apporter de l'amour. Et en fait, si je m'aime, moi-même, je n'ai pas peur de me livrer et de m'exposer aux autres et de leur donner aussi de l'amour parce que je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai plus peur de ne pas être accepté parce qu'il faut savoir quand même, hein, quoi qu'il advienne, que vous trouverez toujours des gens pour ne pas vous accepter, pour ne pas vous aimer. Mais quelqu'un vous aime. Et si vous vous aimez, ben vous arrivez à passer le cap. Et si quelqu'un ne m'aime pas, tant pis, moi je m'aime quand même. Et Dieu m'aime quand même. Et surtout, Dieu m'aime. Et c'est cet amour qui me fait vivre. Parfois, on se dit, mais personne ne me dit bonjour, personne ne me parle. Mais toi, est-ce que quand tu arrives dans un endroit, tu vas dire bonjour à quelqu'un? Est-ce que tu parles avec quelqu'un? Ça peut s'appliquer à l'église, ça peut s'appliquer en général. Qu'est-ce que toi, tu fais? Quelle est ta part? Nous avons aussi notre responsabilité. Et j'allais dire qu'il est de notre responsabilité d'être, de devenir et de rester une personne agréable et aimable. Comment traiter l'infériorité? Vous savez, parfois on dit qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Eh bien justement, on y va et on apporte quelque chose. On donne soi-même, même si on a très peu. Peut-être que, c'est-à-dire, mais j'ai tellement peu d'amour à donner, j'ai déjà du mal à en avoir pour moi-même, mais tu te fortifies de ce que Dieu dit, de l'œuvre de Christ en toi, et tu donnes même le peu que tu as, et tu vas voir que ça va générer un cycle. Et alors ça va grandir, ça va se multiplier. Après, ça va devenir facile. Et tu vas te retrouver à te dire, tiens, tout d'un coup, si je peux me permettre l'expression, je suis devenu quelqu'un de populaire. Les gens commencent à m'aimer. Pourquoi tout d'un coup les gens vous aiment alors qu'ils ne vous aimaient pas? Vous avez commencé, vous, à les aimer et à leur montrer votre amour. Commencez à vous intéresser aux gens, mais vraiment. En disant à quelqu'un bonjour, comment vous allez, ou les gens autour de vous, intéressez-vous à ce qu'ils font, à ce qui les intéresse. Et vous allez voir que tout d'un coup, ils vont vous trouver intéressant. Et si on reste toujours dans notre coin en disant « bah moi, de toute façon, les gens ne me trouvent pas intéressant et je n'arrive pas à avoir des relations », tout ça, ça va rester comme ça pendant très longtemps. Mais vous, commencez à vous intéresser à ce que font les autres. Commencez à vous intéresser à ce qu'ils aiment. Commencez à des choses simples. Juste se rappeler du nom de quelqu'un. Vous n'imaginez pas ce que ça produit. Essayez de vous rappeler comment quelqu'un s'appelle. Et je le vois, que ce soit dans différents domaines, et même dans mon activité commerciale, tu sais, j'ai quelques clients privilèges comme ça, entre guillemets. Et je me souviens que les premières fois, ça les étonnait. Mais c'était ô combien efficace de pouvoir les appeler par leur nom. Les gens vous regardent et il y a quelque chose qui passe tout d'un coup. Et il y a une sympathie qui se met en place. Tu dis, tiens, ce garçon-là, il fait attention à nous. Je ne suis pas juste un client parmi les autres. Je ne suis pas juste la personne qui vient dépenser un peu de mon argent dans son affaire. Mais il m'a appelé par mon nom. Vous savez, Dieu nous appelle par notre nom. Il fait attention à nous. Et ça, c'est facile à faire, d'accord? Je ne vous demande pas de faire des choses que vous n'arriviez pas à faire et qui sont trop compliquées. C'est facile d'essayer de se rappeler du nom de quelqu'un et de dire à personne « bonjour, un tel », lui citer par son nom. Vous lui montrez un intérêt. Et vous éveillez chez cette personne-là un intérêt, du coup, pour vous. Mettre les personnes à l'aise, être détendu, simple. Restez modeste, vous ne connaissez pas tout. Vous savez, les gens les plus... Pardon, Dieu dit qu'on doit aimer tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit être en communion développée avec tout le monde. Et les gens avec lesquels j'ai le moins envie d'être en communion, ce sont des gens dont vous avez l'impression qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. Et en fait, à chaque fois que vous les rencontrez, ce sont eux qui parlent, qui monopolisent la parole, qui monopolisent le temps. Et en fait, ils ne s'intéressent absolument pas à vous, à ce que vous pouvez avoir à dire, à ne pas dire. Et ça, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et en même temps, ce genre de comportement laisse à entendre clairement, de façon évidente, que c'est quelqu'un qui essaye de devenir quelqu'un, de se montrer quelqu'un. Si vous voulez, entre guillemets, être quelqu'un pour les gens autour de vous, permettez aux autres d'être quelqu'un pour vous. Je répète, si vous voulez être quelqu'un pour les gens autour de vous, permettez aux autres d'être quelqu'un pour vous. Plus vous laissez de place aux autres, plus vous permettez aux autres d'exister, plus vous montrez à quelqu'un qu'il existe, et plus cette personne-là va voir que vous existez et va vous faire sentir aussi que vous existez. Dans des relations constructives qui nous font avancer, qui nous font grandir, là, l'infériorité disparaît. Comment être plus apprécié, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, mais ce n'est pas notre quête, bien sûr. Hein. Ce qui est important, c'est d'être, encore une fois, apprécié par Dieu et d'obéir à Dieu et pas d'essayer de plaire à tout le monde, mais c'est de commencer nous-mêmes à aimer, à apprécier, à faire du bien aux gens autour de nous. Il y a vraiment une notion importante. C'est l'un des grands besoins de l'être humain, c'est la reconnaissance. On a besoin d'exister. On a besoin de savoir que quelqu'un nous voit, que les gens font attention à nous. Ça, c'est humain. Et c'est bien, parce que Dieu nous a fait comme ça. C'est, entre guillemets, je dis ça avec énormément de respect et de mesure, mais Dieu lui-même a un grand besoin de reconnaissance. Lisez les Écritures. Louez l'Éternel. Louez-le. Reconnaissez ses bienfaits. Dites, mais hé les gars, regardez, je suis là, j'existe. Il a tout créé pour nous montrer sa grandeur, pour nous faire du bien, c'est vrai, mais il a fait tout ça aussi pour dire, hé, j'existe. Et le cri du cœur des hommes, et c'est le nôtre à tous à certains moments, et sur toutes personnes qui sont comme ça fermées, c'est de dire, j'existe. Et je me souviens d'une personne comme ça que j'ai rencontrée il y a quelques années, qui avait eu pas mal de problèmes personnels et qui avait déjà fait un cheminement avec Dieu, mais même dans sa vie familiale, dans plein de choses, on sentait qu'il y avait vraiment un blocage, quelque chose qui n'allait pas. Et par inspiration de l'esprit, à un moment, une parole est venue et je dis quelque chose du genre « Tu as le droit d'exister, tu existes ». Et ça m'a vraiment marqué parce que moi-même, ça m'a parlé. Et cette personne était vraiment saisie, touchée. Et ensuite, elle est venue, on a prié pour cette personne-là. Et en même temps, le Seigneur m'a enseigné en disant « Voilà, on a besoin d'exister ». Et finalement, quelque chose est venu même sur moi quelque part en disant « Aide les gens à exister ». Évidemment, pas en tant que nous-mêmes, pas dans une dynamique humaniste, hein, comme certains pourraient l'imaginer ou comme ça pourrait être un travers, mais finalement, permettons aux gens d'exister et par là, permettons au don de Dieu qui existe là, dans toutes ces personnes-là, d'exister. Permettons à la vie divine qui est là, enfermée dans chaque personne, d'exister, de se manifester. Et cette image-là, cette parole a été pour la personne vraiment une révélation. Elle dit, tu n'imagines pas, ça fait des années, et c'est vraiment ça qu'il me fallait, c'est ce qui m'a parlé, exister. C'est exactement ça. J'ai l'impression que, voilà, la personne se cache quelque part. Elle fait des choses, mais à chaque fois, un retrait, encore une fois, il faut savoir être humble à sa place, mais un retrait extrême, une limite. Parfois, la personne tremblant, peur de révéler certaines choses qui sont très bonnes, de très bons apports, mais toujours avec beaucoup de retenue, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'elle n'osait pas exister. Mais Dieu, par son amour et sa grâce qui accompagnaient ses paroles à ce moment-là, l'a entre guillemets, réinstallée dans son existence. Il lui a dit, tu existes, tu es ma fille, je te connais, tu existes et tu as le droit d'exister. Et ça a été vraiment libérateur pour cette personne-là et ça a amené beaucoup. Et je crois qu'il y a vraiment une réalité là derrière. Et Dieu nous montre sa puissance, sa grâce, sa bonté. À Dieu porte son regard sur nous. Lui, tu existes pour moi. Tu sais, on est si nombreux sur la terre, et même juste si on prend juste les chrétiens des nouveaux, on est très nombreux, mais chacun existe pour Dieu. Chacun personnellement, individuellement, il nous voit, il nous connaît. Et nous devrions aussi être de ces personnes qui font sentir aux gens que nous croisons, qui sont autour de nous, mais tu existes et tu as le droit d'exister. On n'est pas là pour te conformer, pour t'enfermer dans un truc, au contraire, on est là pour te dire « existe !» et que la vie de Dieu, que le flot divin qui est en toi se manifeste. Je ne suis pas venu te dire « bah tiens, il faut que tu sois comme ci, comme ça » et puis finalement, ça va être mon concept ou moi qui vais me multiplier et tu vas exister pour soutenir mon existence à moi. Non, mais je te dis « existe, vis !» Laisse la vie, le flot de Dieu se manifester à travers toi. C'est ce dont les gens ont besoin, et vous méditez là-dessus et réalisez-le, de reconnaissance. Les gens sont fatigués de gens qui arrivent et qui montrent tout ce qu'ils connaissent, tout ce qu'ils savent, tout ce qui est mieux, tout ce qui est... Non, ils ont juste besoin qu'on se pose là et qu'on apprenne, qu'on s'intéresse à eux. On se pose, je m'intéresse à toi, à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu dis, à ce qui te touche, à ce qui te parle. Et vous savez même, là c'est une parenthèse en passant, mais dans nos concepts d'évangélisation, il y a des choses qui sont bonnes et qui seront toujours bonnes et nous devons prêcher la parole de Dieu. mais je ne suis pas certain que le fait d'arriver comme ceux qui savent et qui moralisent soit forcément la meilleure manière d'atteindre les gens. L'une des manières d'atteindre les gens, l'un des enseignements des Écritures, et ce que Jésus faisait, c'était de s'intéresser aux gens, d'être avec eux, d'aller là où ils sont. Je m'intéresse à toi, tu es important, tu as de la valeur, il y a quelque chose là, et Dieu peut te donner, et Dieu peut mettre en lumière cette valeur-là, et ta vie peut devenir quelque chose de tellement intéressant, tellement puissant, si tu reçois Jésus. Une autre chose simple à faire, j'ai presque fini, hein. Traitez les malentendus, n'entretenez pas de rancune. Vous savez, quand il y a un petit quelque chose qui se passe, on gère ça tout de suite, on laisse pas le temps que ça pourrisse et que ça donne de la rancune. Et puis aussi, saisissez les occasions de faire un compliment, d'être agréable, de dire une parole gentille. Ça, c'est une bonne manière d'aimer les autres. Et en retour, d'être aimé. Parce que si vous le faites, les gens aussi facilement vont aimer à vous faire un compliment, à vous regarder, à vous dire un petit mot gentil, avoir des attentions envers vous. Félicitez les gens pour leur réussite, encouragez-les. Une autre chose, cultivez, et c'est là peut-être le plus important, votre vie spirituelle et votre communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Alors, vous pouvez être un canal de son amour et de ses bienfaits. Parce que ce que nous devons et pouvons servir aux gens autour de nous en les amenant à être et à s'épanouir, à se développer, c'est par-dessus tout leur servir l'amour de Christ et la grâce du Saint-Esprit. Donc si nous pouvons faire tout cela, être gentils, faire des compliments, être soi-même, être agréable, aimer les autres, poser des actes de bonté, mais la chose la plus importante, la plus profonde, la plus belle que nous puissions faire, c'est les amener à se connecter à Christ glorifié. Et à travers, et comment le faire? En cultivant nous-mêmes notre vie spirituelle, notre communion avec le Père, notre relation avec le Saint-Esprit, pour qu'alors son amour, sa grâce, son onction puissent couler à travers nous et atteindre les gens. Et là, ils vont vous aimer. Ils vont vous aimer parce qu'ils vont dire, dans la présence de cette personne, il y a quelque chose. Ils vont dire, moi, j'aime être avec lui, j'aime être avec elle, j'aime être dans cette église, j'aime être dans ce groupe, j'aime être dans cette compagnie-là parce qu'il y a quelque chose. Je me sens bien, je me sens exister. Je me sens vivre, je suis attiré vers quelque chose de plus grand. Je puise la force de devenir celui que je ne suis pas encore. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'en même temps que vous les aimez là où ils sont, comme Dieu le fait pour nous, il nous aime là où on est, mais en même temps ça nous attire là où il voudrait nous emmener. Et si nous aimons les uns les autres, et si nous aimons nos contemporains là où ils sont, nous allons les inciter à vouloir devenir celui qu'ils peuvent être en Christ, à vouloir mettre en avant aussi ce qu'il y a de meilleur chez eux. Vous savez, si vous commencez à complimenter quelqu'un, à l'aimer, à féliciter ses réussites, son travail, etc., cette personne a envie de bien faire parce qu'elle se sent reconnue, elle se sent motivée. Mais si vous ne voyez que ce qui ne va pas et ne reprochez que ce qui ne va pas, cette personne reste bloquée sur ses reproches et du coup, il lui devient difficile de bien faire ce qu'elle savait pourtant bien faire. Donc évidemment, il faut parfois mettre en lumière et dénoncer et condamner ce qui ne va pas, mais mettons plus l'accent sur ce qui va, sur ce qui est bon, que sur ce qui n'est pas bon, ce qui ne va pas. C'est ce que Dieu fait, vous savez, la façon dont Dieu nous gère, entre guillemets, dont Dieu nous motive, si vous réalisez, il nous montre, il met le doigt sur le péché, sur telle chose, mais en même temps, il met l'accent sur ce qui va, il met l'accent sur l'amour qu'il a pour nous, sur ce qu'il a investi en nous, sur ce que nous sommes et que nous pouvons être en lui, de telle sorte que ça n'est pas difficile de renoncer au péché comme ça l'était quand nous essayions d'être religieux, mais nous le faisons de tout cœur parce que nous disons, waouh, mais il y a une telle perspective et le Seigneur a su me motiver. Il m'a corrigé, mais je ne reste pas là à pleurer, je me lève et je dis, non, je ne veux plus de ce péché-là parce que je veux être ce qu'il a dit que je suis. J'exige, je veux voir sa gloire, je veux faire partie de cette église glorieuse, sans tache ni ride, qui manifeste la gloire et la puissance de Dieu. J'exige, j'ai le droit d'exister. Dieu même, il me regarde et il me fait avancer avec lui si je me laisse emporter. Donc, vous êtes désiré, vous êtes aimé, vous êtes important, vous êtes intéressant, vous êtes unique. Vous avez le droit d'exister, vous avez quelque chose de spécial. Recevez l'amour de Dieu. Aimez-vous vous-même comme Dieu vous aime. Aimez les autres et recevez en retour leur amour. Soyez guéris, réconciliés et devenez une source de guérison et de réconciliation. N'est-ce pas un beau programme? C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Amen. Hallelujah.